Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble l'épisode de Monday Night Raw du 24 février 2020. Nous étions à Winnipeg, dans le Canada, et avec moi pour m'accompagner, j'ai l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Yann, salut tout le monde.
Bon voilà, ça faisait 16 ans qu'on n'était pas allé de ce côté-ci, dans le Manitoba. Région désertique du Canada.
Je vois que tu as travaillé. Oui.
Oui, quand je te dis en antenne, ma sœur y a vécu pendant quelques années.
Ah.
Tout comme Chris Jericho, tu l'as dit.
Oui, en effet.
Et c'est vrai que c'est le vide intersidéral là-bas.
Hein. On s'y fait chier. Je ne connais pas du tout. Oui. Bah, c'est pour ça qu'ils avaient l'air si heureux de voir la WWE débarquer, alors nos amis de Winnipeg, parce qu'il y avait de l'ambiance. Hein.
Il y avait une grosse ambiance et on les comprend. Je pense une fois par génération.
Il se passe pas grand-chose. Ouais.
c'est les grandes plaines désertiques, très venteuses.
Et... Ils ont vu les camions de la WWE arriver au loin, monter leur chapiteau.
Mais c'est qui arrive en ville.
Oh là là.
Bon, ben, un qui a foutu le bordel, un qui a foutu le cirque, c'est Randy Orton. Il a foutu le bordel. Ouais. Il a tout gâché. Tout gâché. Il a tout gâché. La fête est gâchée à cause de Randy. Il a effectivement, il s'est attaqué à Edge. Il nous raconte que hey, c'est marrant, tiens, il avait 24 ans, il y a 15 ans. La dernière fois que Winnipeg avait accueilli Monday Night Raw, donc effectivement, ça fait un petit bout de temps. Il était champion intercontinental. Et il s'est fait, tout simplement, il s'est pris une grosse patate dans la tronche par un homme qui s'est révélé être un peu son sauveur, celui qui l'a remis sur le droit chemin. Cet homme, ce sauveur, c'était évidemment Edge, son frère. Donc c'est marrant comment ils arrivent à rattacher tous leurs wagons à WWE.
Oui, ça, ils sont forts.
Ouais. Et si Edge était là ce soir, il n'aurait pas pu être là. Enfin, il explique qu'il n'a pas pu être là à cause de ce qu'il lui a fait. Mais surtout, concrètement, Orton, il ne s'attend pas à ce qu'on comprenne. Ces agissements. Est-ce que, même si nous on a une petite idée à catch up, toi j'imagine t'as une petite idée.
Ouais.
Ouais, bah voilà. Mais bon, il s'attend pas à ce que nous on comprenne. Parce que
non,
le public
c'est trop
comprenne.
Compliqué.
Trop compliqué, c'est des relations d'haine et d'amour. Il dit que c'est un frère, on sait que les relations fraternelles sont très compliquées. On fait des choses que seule une fratrie peut comprendre et les autres ne comprennent pas et c'est pas grave. Il y a quand même pas mal de huées, évidemment, pour Randy Orton, qui est un peu le vrai ennemi public numéro un. Sauf que voici un autre champion local, si je puis dire, puisque Kevin Owens, le Canadien, débarque. Grosse pop pour Kevin Owens. Il nous explique que lui, il a un peu été le psy, malgré lui, d'un paquet de mecs qui ont perdu la boule pendant des mois. Et il a un petit souci avec Randy Orton. Il ne le croit pas. Il ne croit pas que Randy Orton l'ait fait en pensant bien faire. Il pense que tout ça, c'est des tarabistouilles et qu'il a démonté Matt Hardy et que surtout, il nous a privé de quelque chose. Il nous a privé de quelque chose. Il a privé Kevin Owens de quelque chose. Quand Kevin Owens est arrivé à la WWE, ce qui était son rêve, il s'est dit, putain, je vais enfin pouvoir partager un jour le ring avec Edge. Sauf qu'entre-temps, Edge, c'était même avant ça, Edge avait été envoyé à la retraite, évidemment, éloigné des cordes. Mais quand il est revenu, il s'est dit, oh, putain, excellent, je vais enfin pouvoir affronter Edge. C'est mon rêve depuis que je suis gamin, évidemment. Et Orton, il a pris ce rêve à Kevin Owens, et puis il se l'est foutu dans le derche, et du coup, personne n'est content, et encore plus Kevin Owens qui a la rage. Et donc, il veut se battre. Orton est d'accord, mais pas tout de suite, et il repart, et ce sera notre main event. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro à Winnipeg? Est-ce que ça valait le coup de se déplacer 15 ans après?
Bah écoute, ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette intro, je trouve qu'on continue à développer. L'histoire là, le personnage de Randy Orton qui me plaît bien. Alors voilà, on l'avait dit les semaines précédentes que ce serait intéressant de voir finalement Randy Orton attaquer sur l'angle de en fait je l'ai fait pour son bien, vous pouvez pas comprendre. Il l'a pas encore dit très explicitement, il reste encore très nébuleux. Il reste encore très nébuleux. Grosso modo, il dit qu'il l'aime comme un frère, qu'il est désolé du plus profond de son cœur, mais il explique pas pourquoi il l'a fait. Hein. C'est juste, voilà, c'est vous pouvez pas comprendre, c'est trop compliqué. C'est ce que tu as expliqué, c'est bien. Et mais justement, voilà, on sent que derrière, on se dirige vers quelque chose qui, moi, me plaît pas mal et que j'avais essayé d'élaborer un petit peu là la semaine dernière. C'était de se dire en fait, c'est un petit peu, c'est un peu la promo de Shawn Michaels avec Ric Flair à l'époque quand ils avaient eu leur match de légende à WrestleMania. On va put the dog out of his misery, là, comme ils disent en anglais. C'est en fait, voilà, t'es trop vieux pour ces conneries, tu sais pas t'arrêter. T'aurais jamais dû revenir ou continuer. Je vais me charger pour toi de finir le travail, quoi. C'est un petit peu. On sent qu'on va un petit peu vers ça et ça me plaît pas mal que Randy Orton aille tout doucement. Ils veulent pas nous l'expliquer. On essaie de lui tirer les vers du nez. C'était Matt Hardy, maintenant c'est Kevin Owens. Il y en a un parce que c'était un ami de longue date, une légende. Lui parce que c'est un petit jeune qui aurait aimé voir Edge revenir. Enfin, on aborde un petit peu tous les angles. Donc je trouve que c'est vachement bien fichu. Ça avance tranquillou. On a toujours zéro news de Edge, qui c'est vrai, voilà, tout le monde joue un peu sur l'entretien du fantasme que bah voilà, Orton a vraiment buté Edge et qui reviendra jamais. Donc ça me plaît bien. Je trouve que cette intro fonctionnait bien. En plus, Kevin Owens avait une pop de dingue. Ça nous propose un petit adversaire pour Randy Orton. Donc moi, j'aime la direction que ça prend et surtout la lenteur dans le développement qui est plutôt bien fichue.
Ouais, on prend son temps. Perso, par exemple, je voyais le Orton versus Edge pour Super Showdown. Bah, clairement, on n'y est pas.
Non.
On se le garde pour... Peut-être que ça va être... Finalement, cette affiche va vraiment être pour WrestleMania. Comme tu l'as dit, on prend son temps. On joue sur... vraiment, on va dire, les tourments de Randy Orton qui mesurent vraiment ses mots. On essaye de le secouer en envoyant effectivement différents protagonistes un petit peu qui vont essayer de lui tirer les vers du nez. On prend son temps pour cette histoire et je te rejoins, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de naturel. On sentait
ouais, puis ça fait plusieurs fois que les segments sonnent juste, je trouve. Parce qu'on fait beaucoup écho au réel, au passé et tout, c'est vraiment sympa.
Ouais, le retour de Edge finalement a déverrouillé tout un. Enfin, a délié pas les langues, mais vraiment on se retrouve dans une storyline qui. Où on boit les paroles des gars, quoi, et on se dit effectivement, enfin. Ouais, j'imagine très bien que Kevin Owens s'est vraiment dégoûté de ne pas avoir un match contre Edge alors que le bonhomme est revenu. Effectivement, c'est peut-être, je sais pas si c'est vraiment dommage, mais l'absence de Edge commence à être un petit peu.
Vrai que c'est le seul truc où il y a zéro, même pas une interview, rien. En fait, on se dit, attends,
il est dans le coma ou
il est dans le coma, ouais, grave.
Le mec, il est à Winnipeg. Je comprends que là, limite, c'est encore mieux de pas le montrer à Winnipeg, mais la frustration, quand même, de se dire que le mec, il vient à Winnipeg, ils sont au Canada et Edge n'est pas là. Je suis impatient de le revoir quand même. Toi, une fois que Super Showdown sera passé,
Pense qu'il y a l'Elimination Chamber encore entre les deux.
Elimination Chamber, est-ce qu'on va jouer est-ce que quelque chose va se passer à ce niveau-là pour l'Elimination Chamber?
À voir.
Pour l'instant, en tout cas, on a vraiment eu une super intro, un super opener. On continue, si tu veux bien, avec. Eh ben, la Lucha Party Familia, la nouvelle division hein, finalement de la WWE, des luchadors, petite interview de Garza et Vega, Garza qui fait les beaux yeux à Charlie Caruso, voilà que pour voilà qui va rendre triste un peu Ringside, hein, je pense que Ringside va prendre le micro un
de ces quatre. Mais bon, c'est difficile de tenir la comparaison avec Angel Garza.
He's a man. Et voilà, donc Garza va un petit peu nettoyer la famille, là, parce que dans la famille, c'est comme dans toutes les familles. On parle beaucoup de famille en ce moment, hein, finalement, de frères, de cousins.
Mais c'est le fondement de tout. Hein.
Ouais. Ça, le fondement à catch-up, on connaît. On a eu un gros match qui a suivi. Angel Garza et Humberto Carrillo se sont mis secs sur la tronche, là, 15 minutes de haute volée. Gros match Lucha avec des spots assez marrants, là, comme ils se sont retrouvés sur la tête à se foutre des claques dans la tronche.
C'était excellent, ça.
Ouais. Les mecs se connaissent par cœur. Oui, mais ça n'explique pas vraiment qu'ils puissent se retrouver dans cette position-là, mais comme beaucoup de gens. Tu vois, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Mais si on se mettait des claques dans la tronche.
La tête à l'envers.
La tête dans la mer. La fin du match, c'est tout simplement, alors on s'échange, il y a eu un spin kick de Cario, on tente un petit peu des roll-up, on s'échange les nirfrogs.
Ouais, il y a un petit enchaînement de roll-up, ouais.
Ouais, ouais. Et Garza finit par obtenir la victoire. Grosse victoire pour Angel Garza, ou Angel Garza, comment on le prononce exactement ? C'est pas facile, hein. Dans un gros match qui a dû faire plaisir à notre ami Tonton Chris.
Oh oui.
Est-ce que Tonton est content d'après toi?
Oh, je pense que Tonton est très très content et moi aussi parce que personnellement tu l'as parlé tu l'as mentionné avant d'entamer le segment, on parle un peu d'une nouvelle division. C'est vrai que on n'a pas eu Rey Mysterio cette semaine et Andrade était sans doute dans la coulisse parce que sa suspension se termine incessamment sous peu. Mais voilà, on a vraiment l'impression, c'est le sentiment que j'ai depuis 3-4 semaines, que nos amis mexicains remplacent finalement ce que 205 n'a jamais réussi à être, enfin en tout cas les Cruiserweight n'ont jamais réussi à être à la WWE à Raw. C'est cette petite demi-heure mexicaine qu'on a à Raw toutes les semaines. Moi, me divertit énormément. Ça propose un catch qui est complètement différent. Tu l'as dit, il y a des spots qui sont très marrants. Il y a des enchaînements de roll-up, de rana, de slingshot un peu dans tous les sens. Enfin, c'est du catch qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouve que à petite dose comme ça, à raison d'un match par semaine, avec des mecs qui maîtrisent extrêmement bien leur sujet, bah, ça apporte une touche en plus qui, moi, me donne... Je continue à le dire, c'est ce que je dis chaque semaine, me donne envie à chaque fois d'allumer ma télé, de regarder Raw pour voir ce qu'ils vont nous sortir cette semaine. Et ils nous ont fait un match super sympa. La petite promo de Garza avec Vega avant le match, c'était très drôle parce que voilà, ils continuent à brouiller un peu. Voilà, on les présente comme le hottest couple, là, le couple le plus chaud. De la WWE, alors qu'ils sont strictly business, hein, ils préfèrent toujours le préciser, mais tu sens que c'est pas très net parce que c'est quand même un séducteur, il peut pas s'en empêcher, hein, il séduit tout ce qui bouge, Garza, donc c'est la dynamique qui est assez drôle. On a hâte de voir Andrade revenir là-dedans pour voir comment ça va un petit peu se passer, est-ce qu'il va y avoir un peu de jalousie et tout. Donc ouais, bah, écoute, voilà, ça continue, c'est divertissant, c'est impressionnant, ça vole, ça me plaît bien.
Ouais, non, et en plus, ouais, comme tu le dis, c'est pas à l'inverse presque de 205. Là, on a une espèce d'histoire, une vieille histoire de famille, quoi. C'est pas grand chose, mais ça met du lien à tous ces combats et toutes ces passes d'armes. Donc c'est assez rafraîchissant finalement d'avoir cette petite demi-heure mexicaine, comme tu dis. À savoir que. Andrade a passé le relais à Samoa Joe pour les 30.
Oui, je crois que là, j'ai vu ça.
Il y a vraiment un spliff qui tourne, hein, parce qu'on est passé quand même de Robert Roode à Andrade, et maintenant c'est Samoa Joe. Donc ça tourne, hein, dans les.
Écoute, ouais, hein, chacun doit pouvoir avoir sa part.
faut juste faire attention pas que ça tombe au moment de WrestleMania qui est une
spécialité. Oui, ce serait dommage. Là, vous êtes encore dans le timing, les gars. S'il y en a qui veulent tirer une petite latte, c'est la semaine prochaine, pas plus, hein.
Bon, on reste dans le high flyer puisque l'autre chouchou de Tonton.
Ah, mais que oui.
L'autre chouchou Tonton, c'est Riri, c'est Rico, c'est Ricky, c'est Ricochet.
C'est Make-A-Wish, c'est la Make-A-Wish Foundation qui a envoyé un de ses enfants.
Ah oui, voilà, un petit enfant qui voulait participer, découvrir un peu les coulisses de la WWE et surtout avoir une petite séquence de câlins avec Brock Lesnar. Donc ouais, le 442e Make-A-Wish de la WWE, Ricochet, qui avait un match ce soir contre Luke Gallows. Bon, bah, il a gagné, hein, parce qu'il fout le bouquet fort, oui. Pour l'Arabie Saoudite.
Ah oui.
Et backstage, j'ai eu la petite confrontation avec. Non, ils sont même pas croisés en fait. Non, ils sont juste moqués en fait. AJ Styles avant, après on est parti sur autre chose. Je crois pas qu'ils soient croisés avec AJ Styles et Ricochet. Ils se sont juste moqués de lui. Oui, c'est ça. Après, ils sont pas croisés à Aleister Black, mais en fait.
Oui, ils ont tabassé Aleister Black. Mais ça,
bah, en fait, toi, c'est marrant parce que j'ai trouvé que justement, toute cette séquence, c'est plutôt bien ficelé parce qu'on a vraiment. Tout s'est croisé sur 3 ou 4 matchs. Là,
c'était assez fluide, oui.
Avec les promos. Bon, pas trop s'éterniser sur le match entre Ricochet et Luke Gallows.
Non.
Parce que voilà, il fallait juste faire gagner le challenger. Mais aussi après, donc ils ont croisé tout simplement Aleister Black et évidemment AJ Styles qui est en mode bully depuis plusieurs mois. Après s'être moqué de Ricochet, ils se sont mis tout simplement à attaquer Aleister Black. Et Aleister Black, visiblement, il s'est pris une grosse rouste parce qu'il va vendre l'agression pendant genre une heure. Qui était assez.
Oui,
assez
ça avait pas dingue. L'air si violent que ça, mais ok.
Ouais, en fait, il y a eu un match un petit peu plus tard, on va l'expédier, un match assez solide, parce que je dis on va l'expédier, mais un match assez solide contre Eric Rowan, hein, la seconde, le partie 2.
Numéro 2, ouais.
Chapitre 2, un match de 10 minutes où, ben, justement, la blessure d'Aleister Black qui boitait, là, comme un canard à qui on a cassé la patte. A presque permis à Eric Rowan de décrocher une victoire. Mais voilà, Eric Rowan, à un moment, il est balancé dans sa cage, et sa cage s'est retournée, donc ça l'a un petit peu déconcentré. Et il s'est bouffé deux Black Mage, je crois, hein, quand même, pour se faire étaler.
Oui, tout à fait.
Enchaînement. Et victoire de Aleister Black, qui du coup lance un défi à AJ Styles pour la semaine prochaine.
Il perd pas de temps. Hein. C'est un homme pressé en ce moment, Aleister Black. Il faut des matchs
le
toutes les semaines.
Le mec, pendant un an, il attendait dans sa cave. Après, ouais. Pendant un an, il affrontait des jobbers. Et maintenant, le mec qui provoque AJ Styles. Qu'est-ce qui s'est passé?
On sait pas, mais bon, écoute, ça continue, c'est bien. Ça monte en gamme, ses adversaires, semaine après semaine. Les jobbers, Tozawa, Rowan, maintenant. Et puis, bah, bientôt AJ Styles. Moi, ça me va bien. J'ai hâte de voir
Bienvenue dans la vraie mid-card.
Bienvenue dans la vraie mid-card, voilà, c'est ça. Exactement.
Ouais, non, il y a AJ Styles, Aleister Black, ça sent plutôt bon comme affrontement. Et puis le match Black et Rowan, j'ai beaucoup aimé aussi.
Oui.
Hein. Il y a vraiment
d'affronter
des Golgoths comme ça. Là.
La blessure, en plus, leur a permis de... Enfin, vendre la blessure, la langue, a permis de proposer un match un petit peu différent, une petite variation de celui de la semaine dernière. On continue à protéger un peu Eric Rowan là, avec son histoire de cage comme ça, il était un peu distrait et tout. Non, moi j'ai trouvé ça encore une fois très solide. Déjà la semaine dernière c'était cool, j'ai plutôt bien aimé. Ouais.
Bon, après par contre c'est vrai que sceller deux coups de poing de Z aussi pendant une heure, bon fallait
ils
vraiment...
peut-être pu y aller un peu plus franchement sur le beatdown.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que je reproche, c'est qu'il aurait fallu avoir un gros beatdown, vraiment un énorme beatdown. Là, ça aurait été.
Il aurait fallu lui envoyer les tubes en alu qui font du bruit là, en police sur la tête et tout là.
Oh, le truc, putain, mais voilà. Ils ont toujours pas inventé des tubes plus silencieux que ça, quoi. C'est vraiment. Puis qu'est-ce qu'ils foutent là, ces tubes, merde.
Oui, il y en a dans toutes les stades, putain.
Ah oui, dans chaque coin, chaque couloir, dès que la WWE débarque, les mecs, ils posent des tubes en métal qui font un bruit d'enfer.
Ting, ting, ouais.
Au cas où, il y a un petit beatdown qui se prépare. Bon programme enfin pour Aleister Black. On a eu. Si, alors, Edge s'est pas déplacé à Winnipeg, mais Brock Lesnar s'est déplacé à Winnipeg. Avec Paul.
Quand même.
Et ouais. Paul Heyman nous a refait un petit peu son Paul Heyman show. C'est vrai qu'il faut vendre la menace Ricochet, ce qui n'est pas évident.
C'est pas simple, hein,
ouais. Tant qu'il dit que, grosso modo, Brock Lesnar en doit accrocher un uppercut à Ricochet, parce qu'on se souvient donc que Ricochet en avait placé une dans les valseuses de Brock Lesnar, ce qui avait entraîné toute une série d'événements malheureux pour la bête, hein, et du coup une série d'événements plus heureux pour Drew McIntyre. Mais bon, voilà, cette fois-ci, c'est différent. Si Ricochet gagne, alors il nous fait... C'est un truc, c'est un de leurs gimmicks du moment. Ils utilisent beaucoup le what if et le if, tout au conditionnel. Il y a beaucoup de promos basés là-dessus. Voilà, si Ricochet gagne, il va à WrestleMania. Et si ça arrive, eh ben, ça change tout pour WrestleMania. Donc, il nous fait une espèce de projection, une espèce d'uchronie un peu improbable, où on vivrait dans un monde où Ricochet est champion de la WWE.
Un monde où Chris est président du monde et Ricochet est champion WWE.
Voilà, je pense que ce serait le même monde, effectivement. On est dans Sliders, la série télé, si vous vous souvenez. Effectivement, ça, peut-être que sur les milliards de variations d'itérations de la planète, il y a peut-être une planète.
Il y en a bien une, hein.
Ouais. Ricochet, une terre sur laquelle Ricochet, champion du monde WWE. J'espère que Chris y est aussi et qu'il s'amuse bien là-bas, qu'il profite. Bon, pas de balle pour notre Chris à nous, il est sur la mauvaise planète.
Oui, pas de chance.
Il est sur la planète où Brock Lesnar va complètement détruire Ricochet.
Déjà, il est sur la planète où Ricochet a un match pour le titre WWE, ce qui est assez exceptionnel quand même.
Oui, il y a probablement une planète où Ricochet n'est même pas à la WWE, où oui. Il s'est blessé 17 ans. Et,
oui, voilà, il faut se dire qu'il y a quand même bien pire. Hein.
Il travaille un drive-in, il bosse au Burger King, là, il sert oui. Kenny West et Kardashian au Burger King de Saint-Ouen. Bref, une promo bien exécutée par Paul Heyman. Bon, c'est un peu toujours la même. On commence un petit peu à plus trop. Je sais pas si Ricochet, je veux pas. Pauvre. Mais on commence à plus trop accrocher, je trouve, à ces promos où on essaye de nous vendre l'impossible. La preuve, il s'en moque même.
Oui, c'est d'ailleurs là le truc que je retiens de cette promo par rapport à. Quand il a pu avoir AJ Styles ou Bryan ou Finn Balor en challenger, le ton était vraiment dans la moquerie et dans le dédain, j'ai trouvé. Mm. C'était vraiment... Et limite, j'ai pas trop pigé d'ailleurs l'intérêt de la promo parce que, en soi, il dit ce que tout le monde pense tout bas, Ricochet a aucune chance et on se demande vraiment ce qu'il fout là. Mais à ce moment-là, je vois pas l'intérêt non plus de la promo parce que c'est quoi ? Tu nous vends le fait que Brock Lesnar dimanche là va détruire Ricochet, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait envie de voir ça là pour le pay-per-view. C'est pour ça qu'on brancherait notre télé. Non, en soi, on s'en fout de voir Brock Lesnar détruire Ricochet a priori. Et comme on n'arrête pas de nous répéter qu'il a aucune chance et que même au niveau de son booking, franchement là, la semaine dernière il a galéré pendant 8 minutes contre Karl Anderson. Après, on veut nous faire croire qu'il va une chance contre Brock Lesnar. Là, il a battu. Sans briller vraiment dans l'indifférence générale, Luke Gallows. Je pense que c'est sans doute un des... on va dire que je m'acharne, mais de mémoire récente, franchement, pour un titre majeur, je ne vois pas de challenger plus fade et plus chiant que Ricochet. On est dans c'est même plus de la transition, là. C'est vraiment juste... on a presque l'impression qu'ils envoient un jobber local se faire écarteler par Brock Lesnar à Super Showdown. C'est vraiment... le mec ne fait même plus de promo, mais tant mieux pour lui, hein, parce que ça fait 2 semaines qu'il parle plus, mais ça lui évite de bégayer. Et puis, il arrive à Super Showdown avec un max de momentum, hein, parce qu'il a détruit Z aussi, et je sais même plus qui avant.
Il avait battu Bobby Lashley.
Il y avait eu un bon match contre Bobby Lashley il y a 3 semaines.
Là, je comprends pas pourquoi on n'est pas allé sur un truc un peu plus costaud. Il bat Bobby Lashley. Ouais.
C'était bien.
C'est un même le gabarit. Match était sympa, ça d'ailleurs. Face à un gabarit proche de Brock Lesnar dans un match comme tu l'as dit qui était plutôt correct, plutôt bon même. Tu dis ah tiens, ils vont lui. Enfin, toi, le mec va glaner quelques victoires contre des costauds et après il se tape Karl Anderson et Luke Gallows qui ont été suffisamment ridiculisés. Qui végète suffisamment en low card là, pour ne représenter aucune menace et aucun crédit à les affronter, gagner contre eux. Effectivement, ils auraient pu nous mettre d'autres combattants, enfin d'autres adversaires d'un plus haut calibre.
C'était le moment de le builder un petit peu plus quand même, je trouve, Ricochet, mais bon, écoute. De toute façon, c'est pas comme si on en avait quelque chose à faire de ce match. C'est dommage. Voilà, tu as Brock Lesnar au final.
C'est pour Roland sa seule et unique opportunité d'avoir un tel match. Donc c'est vrai que c'est dommage. Ouais, mais bon, ça prouve aussi à quel point ce pay-per-view n'est pas si... enfin,
ouais.
Tu vois ce que je veux dire.
C'est ça.
Tout, le match, l'affiche suffit en elle-même. Ils n'ont pas besoin de trop se prendre la tête sur le booking. On a eu une interview. Ah, tu vas me dire ce que tu en as pensé quand même. De Drew McIntyre.
Ah.
Backstage. Par Charlie Caruso. Elle était au four et au moulin.
Oui.
Grosso modo, cette interview, on y a... Je sais pas. Si on connaît déjà Drew McIntyre et son histoire, et a priori, on est censé la connaître parce qu'ils nous ont quand même pas mal gavé, et à juste titre, toi. Enfin, on nous a expliqué qui était Drew McIntyre. Mais là, ils nous ont refait vraiment une espèce de petite biographie, là, express, sous forme d'interview, où il a raconté toute son histoire, hein, de son Chosen One, de son statut d'élu par Vince, à qui tout était promis, y compris gagner un titre mondial, chose qu'il n'a jamais faite. Il était pas content, voilà, il a eu passage de gestion de la colère, et cette colère, il l'a transformée en énergie positive. Et il est revenu à NXT, il a gagné le titre, voilà, il a quitté la WWE il y a 15 ans en étant un garçon, un garçonnet, il est revenu en étant un homme. L'histoire est belle, il a gagné le Rumble, parce que sa carrière en dépendait, c'était l'opportunité à ne pas manquer, et il l'a fait. Et il s'en moque de savoir qui va affronter. En plus, on nous refout d'une Ricochet. Oui. Et au fait, si Ricochet, moi je m'en fous.
Je m'en fous.
Je pense que tu t'en fous pas.
Ouais.
Tout le mail que tu t'es donné, non, je pense pas que tu t'en fous.
D'ailleurs, ça me fait penser parce que j'ai eu le sentiment, je sais pas si tu l'as eu aussi, quand après la défaite de Luke Gallows, quand Aleister Black va passer se faire tarter par Zee aussi, là ils sont en train de discuter en coulisses, AJ Styles, ouais. Il dit, écoute, c'est un miracle qui t'est battu, et qui sait, peut-être qu'un miracle arrivera encore à Ricochet à Super Showdown. Mais que du coup, limite, ce serait génial, parce que comme ça, derrière, lui, il va gagner son gauntlet et ce sera le premier pour aller lui piquer son titre. Donc, c'est ouais. Tu vois, genre, et je crois que c'était un peu ça qu'il disait. Donc, tu vois, même dans les promos innocentes où il a rien à voir en coulisses, AJ Styles, en fait, sous-entend que putain, en fait, ce serait génial que Ricochet gagne, parce qu'après, derrière, moi, comme ça, je lui prends le titre peinard. Et c'est nickel, tu vois. Donc c'est vraiment...
Personne ne respecte Ricochet.
Personne ne respecte, quoi. Sauf si Drew McIntyre qui dit qu'il... Enfin non,
il s'en fout.
Ouais, il s'en fout.
alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette interview
Je te sens tiédasse sur cette interview, toi, non? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, hein.
Ouais.
J'ai adoré cette promo parce que je trouve qu'elle raconte plein de choses intéressantes, aussi bien pour Drew McIntyre que la WWE en général. Mm. Je trouve que c'est une promo qui était pleine d'humilité et qui sonnait vraiment juste de la bouche de Drew McIntyre. Je pense pas qu'on lui ait, tu vois, genre filé un texte en disant « bah voilà, va falloir que tu t'écrases, dire que ce que t'as fait avant c'était de la merde et tout ». Je pense qu'il le pense vraiment, et c'est une belle morale aussi pour... parfois ce qu'on peut entendre sur des mecs qui sont sous-utilisés, mal utilisés, qui mériteraient d'être champions, machin. En fait, sa promo, elle était top, et son parcours, son histoire, elle est top pour montrer que, en fait, non, regardez, c'est à des gars comme ça de se bouger le fion, de se sortir les doigts du cul et de saisir vraiment les opportunités qu'on leur offre, parce que ce gars-là, il était arrivé... quasiment au sommet à 21 ans à la WWE, adoubé par Vince McMahon, The Chosen One, futur champion du monde, truc de dingue et tout. C'était assez hallucinant à l'époque, je m'en souvenais. En plus, c'était très drôle de revoir les images, de voir sa tête à l'époque par rapport à aujourd'hui.
Ouais.
Le gars a triplé de volume, il a des poils partout, c'est assez drôle. Et de le revoir avec sa chemise couleur stabilo bleu, là, horrible, dégueulasse. C'était assez marrant. Et de se dire, en fait, t'as beau arriver avec une cuillère d'argent dans la bouche, en fait, si tu fais de la merde, si t'es trop sûr de toi, si tu bosses pas assez, finalement, tu finis à faire du air guitare avec des jobbers avant de te faire virer 6 mois plus tard, quoi.
Avec l'image du FreeMB, effectivement.
Ouais, et je trouve que c'est une belle histoire, parce que des gars comme ça à WWE, il y en a eu des dizaines.
Des dizaines.
Et qui se sont fait dégager par la charrette, et dont on n'a jamais rien entendu parler. Ils sont partis faire des galas, des trucs dans des garages devant 200 personnes. S'ils ont eu un peu de chance, ils ont capitalisé sur leur nom pour aller à Impact, à la ROH, j'en sais rien, ou à la EW maintenant pour certains, tant mieux pour eux. Mais au final, des mecs qui ont réussi finalement à revenir et avoir un tel succès, tu vois, il est revenu, il s'est remis en question, il a taffé sur son physique, sur son catch surtout. Il est revenu, il est arrivé, il a refait ses gammes à NXT, et maintenant tu vois le mouse que c'est, la promo que c'est, le charisme que c'est, tu te dis bah voilà, c'est juste une super success story, et en même temps je trouve que ça remet un peu le clocher au centre du village, c'est comme ça qu'on dit, l'église au centre du village.
L'église, ouais. Souvent accompagné de son clocher.
Souvent accompagné de son clocher, c'est vrai. Et voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup d'humilité et beaucoup de réel dans cette promo. Et s'ils vont jusqu'au bout avec la victoire de Drew McIntyre à WrestleMania, vraiment, ce sera une très belle histoire. Donc j'espère qu'ils vont continuer à taper là-dessus. Et cette promo était la bienvenue, vraiment, pour relever un peu... le nez de la semaine dernière où j'ai trouvé Drew McIntyre là pour le coup dans le cliché de tout ce que je veux pas voir, là c'était nettement mieux, tu vois, t'as vraiment envie de t'identifier au mec, quoi.
Ouais non, moi effectivement, alors je vais dire tout de suite ce qui m'a un peu gêné, mais c'est presque malhonnête de ma part, c'est tout simplement parce qu'effectivement je la connais déjà beaucoup, son histoire. Je regarde évidemment si tu regardes le network, il y a pas mal de choses qui sont dédiées à Drew McIntyre. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a raconté quelque chose que je connaissais déjà. Mais voilà, je vais être honnête, effectivement, le mec pue le charisme. Le format était vraiment cool, c'était hyper naturel. Caruso, plutôt bien, l'interview était plutôt bien menée. Tu voyais qu'effectivement, des fois, ils s'interrompaient mutuellement. Enfin, il y avait vraiment un côté plus naturel, plus vrai, ouais. dans les interviews. Ça sentait beaucoup moins le script. Et, bon, évidemment, ils ont leur histoire à raconter et ils ont leur bullet point et ils doivent placer des mots-clés. Mais tu sentais que c'est ce qui l'a rendu ce qui accompagnait aussi son festin, c'est effectivement cette histoire incroyable que t'as mise à l'honneur, qui est de l'or en barre pour la WWE. Ce mec là il a probablement une des meilleures histoires, si ce n'est la meilleure histoire à l'heure actuelle en termes de success story mettre en avant la WWE. Donc c'était franchement, effectivement, c'est un exercice qui a été plutôt efficace et qui rappelle à tout le monde qui il est, et c'est un beau message aussi envoyé, je pense, à pas mal de
mecs dans le roster, de mecs dans le roster, dans le mec de l'indépendant aussi, hein.
C'est pas parce qu'une fois que t'as signé à WWE qu'on t'a donné ta chance que le plus dur est fait, et on va, au contraire, on va te demander plus, encore plus que ce qu'on te demande probablement ailleurs. On sait que c'est la galère quand tu es en indé, que tu vas dans des salles, ça te paye juste les bidons d'essence que t'as mis dans ta bagnole, mais crois pas qu'une fois que t'es à WWE, t'es dans un canapé. Au contraire, en fait, on va te faire le piège, on va te foutre dans un canapé. Tu vas facilement te mettre assis tranquillement, peinard, dans un canapé. Et puis, 6 mois plus tard, sans même t'en rendre compte, tu vas te retrouver dans la charrette parce que tu ne te seras pas sorti les doigts du cul. Et c'est pas pour rien. Je pense qu'on en reparlera peut-être plus la semaine prochaine avec le retour de John Cena. Mais c'est pas pour rien que dans l'émission là, sur le network, sur la Ruthless Aggression Era, dans l'épisode formidable qui est dédié à John Cena, l'histoire qu'on nous raconte, c'est celle-ci. C'est l'histoire d'un mec qui a failli laisser filer sa chance parce qu'il était trop à l'aise. Il pensait que, justement, on lui avait donné ce statut de chosen one avec cette arrivée fracassante. Et puis, un an plus tard, en fait, il s'est retrouvé dans la mélasse et il a fallu se mettre en question. Il avait failli se faire virer. Et le mec s'est mis une claque le matin. Il s'est réveillé, s'est mis une claque et il a fait je peux pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et effectivement, c'est dans l'air du temps, quoi. En tout cas, WWE, cet aspect-là, qui se réveille, toi.
Mais c'est vraiment, important. Et tu vois, je trouve que cette promo, elle est importante et elle envoie un message qui est super clé. Et t'as beau connaître son histoire, tu vois, je pense qu'il y aura plusieurs niveaux de lecture. Il y aura ceux qui connaissaient pas son histoire et qui du coup se diront putain, Drew McIntyre, c'est génial, ce qui lui arrive, j'ai trop envie d'être pour lui. Et puis il y a ceux qui connaissent son histoire comme toi et moi. Et qui, je pense, ce qu'il faut en retirer, c'est ce message-là. Je dis pas ça parce que je suis fan de la WWE et tout, mais je trouve que ça envoie un message important. Alors je pense que ceux qui buguent la longueur de journée, qui disent ouais c'est la WWE, c'est des enfoirés, machin, lui il est sous-coté, tout ça, je m'attends pas à ce qu'ils comprennent spécialement le sous-texte de cette promo, mais pour ceux en tout cas qui pourront, on va dire, recevoir le message, je pense que c'est une vraie leçon d'humilité pour beaucoup de gens, ce type de promo. Parce que quand il dit que c'était un loser, que c'était un tocard, qu'il a mérité de se faire virer, parce qu'il dit tout ça dans sa promo, hein, et que voilà, il aurait jamais dû se laisser aller comme ça et tout. Certains pourront croire que c'est du script. Moi, je pense vraiment que ce genre de mec est assez intelligent pour être capable, limite, d'écrire ce type de texte, quoi.
Ah bah oui, parce que de toute façon, c'est quelque chose, c'est un discours qui tient depuis depuis plusieurs mois, après plusieurs années. Ouais, hein. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'il a partagé dans des interviews avant même de briller comme ça, la WWE.
C'est ça, donc voilà.
Bon, en parlant de vérité, une autre vérité, c'est R-Truth qui... alors, est-ce que ça existait déjà dans Truth TV?
Bah oui.
Bah oui, on est d'accord. Non, mais
ça existait déjà. Avec Carmella, ils en ont fait plein.
Mais oui, tu as raison. L'invité de ce soir, c'est Bobby Lashley, et plutôt les invités, puisqu'il est accompagné de Lana, pour nous parler un petit peu du Gauntlet Match qui aura lieu ce jeudi pour gagner. Alors, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce trophée encore à la con, là?
Je sais même pas comment ça se prononce. Twake, je sais pas, c'est le gratte-ciel qui est là-bas, ouais.
Ouais, Mountain Twake Trophy. Donc voilà, un nouveau... Encore un truc qui va prendre la poussière sur une étagère. Il y a beaucoup de questions, Chauffe, il y a beaucoup de questions, mais Lana l'interrompt. Ce soir, il y a un match avec Bobby Lashley. Et Chauffe dit, ah là là, mais Bobby Lashley, il est quand même très, 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 très gros, très, très costaud. Il préférait lui faire une interview plutôt que... Allez, il lui demande même s'il est allé voir le film Sonic.
Ouais, j'ai pas compris s'il y avait une blague ou pas. Mais...
Je sais pas s'il y a une blague ou si c'est juste... Une question totalement idiote et enfin random.
C'est peut-être ça, ouais.
Genre, il veut gagner du temps et du coup, il lui pose le premier truc qui lui passe en tête. Et ça se trouve, le mec, il a vu la BO de Sonic, enfin la bande originale, la bande annonce de Sonic, qui a l'air d'être un drôle de film, une fois de plus. Toujours est-il que Lana, elle veut qu'il y ait un match et du coup, il y a un match. Et Lashley, il démonte R-Truth, malgré le petit hommage à John Cena.
Ouais, ça fait quelques matchs qu'il fait ça, ouais.
Oui, là, effectivement. Oui, non, mais il faut qu'il y ait un truc avec John Cena la semaine prochaine, une petite interaction avec R-Truth, ce serait vraiment bien. Et voilà, une victoire de Bobby Lashley qui part, je vois bien, moi, remporter ce trophée, Bobby Lashley.
Ça lui irait bien, il a une bonne tête à porter ce trophée. Oui,
ouais,
c'est vrai.
Ouais, ça lui irait bien. Alors... Il y a une signature de contrat.
Oui.
C'était le bordel.
Grande signature. Oui.
Sacrée signature, parce qu'il y avait 6 contractuels, voilà, oui. Contractants.
6 parties, oui.
6 parties. 6 parties. Jerry Lawler en maître de cérémonie, évidemment, puisqu'il y a des femmes.
C'est des femmes, donc oui.
Et voilà. Et Jerry Lawler est un homme à femme. Alors, putain, il a bafouillé comme...
Ah bah, il était ému, hein, forcément.
Ouais, il était trop d'émotion, ouais. C'est l'émotion, monsieur, c'est l'émotion. Le pantalon,
il n'a même
c'est
pas besoin de se forcer. Ouais.
Si on présente donc Asuka, Natalya, et l'ancien Riot Squad. Shayna n'est pas là. Elle est quelque part, mais elle n'est pas là. Elle est dans les parages. Asuka interrompt le leur, Dieu merci, en gueulant des trucs en japonais de façon hystérique, comme elle sait le faire. Tout le monde commence à signer, il y a de la tension à droite à gauche. Shayna Baszler débarque, elle signe, elle s'en prend un petit peu à. Voilà, il y a une petite passe d'armes avec Natalya, on se défie du regard. Asuka pousse Natalya, mais genre violent. Comment elle a éjecté la canadienne pour lui choper le Mac et gueuler après Shayna en l'implorant de la mordre.
Oui.
Mords-moi, mords-moi. Natalya attaque, c'est le bordel, tout le monde se fout sur la tronche, grosse brawl, et Becky débarque, alors qu'il ne restait plus que Shayna, bien contente de son petit numéro, ça se fout sur la tronche une fois de plus, et puis ça se termine comme ça.
Donc, oui.
Gros bordel, casting très bancal, hein, on l'a déjà dit pour cette chaîne d'élimination.
Oui.
Et... Moi, je suis désolé, mais je comprends pas en fait. Enfin,
bah non.
Tout est fait, mais à l'envers. Là, regarde, c'est comme regarder Memento, là, ce film. Tu connais Memento?
Non.
Il raconte une histoire à l'envers, en fait. Ah. Tu vois d'abord la fin et au fur et à mesure.
Ah, bah oui. Ouais. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est. Ouais.
Qu'est-ce qu'on va faire là pendant 40 jours, quoi?
Bah, on va rien faire. Enfin, ouais, c'est un peu le problème. J'ai trouvé que le segment de Shaina là qui avait mordu Becky Lynch, bon voilà, c'était what the fuck, c'était super choquant, divertissant et tout, j'avais plutôt bien accroché. Et après il y a eu l'annonce de cette Elimination Chamber et ce casting complètement foireux. Et on se heurte un peu, bah enfin de toute façon on se répète semaine après semaine, hein, mais on se heurte aux mêmes écueils que le Lesnar McIntyre qui part presque de trop loin. Enfin, pas forcément trop loin, mais en tout cas, ils entretiennent zéro suspense, en fait, avec ce qu'ils proposent. De la même manière qu'ils envoient Ricochet pour taper sur Brock Lesnar, où personne n'y croit, là, maintenant, on nous fait croire que Shayna Baszler, dans une Elimination Chamber, surtout de la façon dont c'est booké, parce qu'il n'y en a que pour elle et pour Becky Lynch, on nous fait croire qu'elle va perdre contre l'ex-Riot Squad, Asuka qui a perdu deux fois contre Becky Lynch le mois dernier, et Natalia. Bon. Merde, quoi. Enfin, genre, je... Y a rien à voir dans ce match. L'Elimination Chamber... Alors, ils vont faire quoi? Ils vont nous faire les ex du Riot Squad qui se toisent du regard en mode « Ouh, le public qui va vibrer » parce que c'est un moment incroyable de nostalgie, je suis pas sûr. il va y avoir des interactions incroyables entre Asuka et Natalia parce que bah voilà, elles se détestent maintenant qu'elles se sont poussées pendant la signature de contrat. Honnêtement, cette Elimination Chamber m'emballe pas du tout. Au demeurant, j'avais trouvé que le segment de la signature de contrat était plutôt fun parce que Asuka était assez drôle à gueuler en japonais sur tout ce qui bouge et puis la scène de gros bordel à la fin, c'est toujours efficace, mais enfin voilà, en fait on attend que ça se passe parce que on sait déjà on connaît déjà la fin, quoi. Donc c'est encore une fois très compliqué. Je pense que malheureusement, en fait, à partir du moment où ils avaient annoncé le line-up, ils n'avaient aucun moyen de rattraper vraiment ce match. Je ne vois pas comment ils auraient pu nous hyper pour ce match à Elimination Chamber. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce truc. Franchement, c'est vrai qu'on attend un peu que ça se passe, quoi.
Ouais,
on attend
que ça se passe. J'espère, voilà, moi, j'espère juste avoir quelques bons segments semaine après semaine entre Shayna et Becky. Mais même ça, je sais pas. Je suis pas tant hypé que ça parce qu'il y a quand même vraiment une sensation de redite par rapport à l'année dernière où on essaye de presque refaire un peu la même chose, toi, avec...
Ah bah clairement, hein, on essaye de refaire la même chose. Hein,
voilà, là, ça a marché, du coup, ça y est, on refoue...
C'est la combattante du MMA, ça ouais. Part en brawl dès que ça peut partir en brawl toutes les semaines, parce qu'elle se déteste.
Voilà.
Et puis ça dit des gros mots pendant les promos, parce que c'est sérieux.
Ouais.
Donc oui, on est sur une redite, sauf que cette fois, Becky est championne, donc... On verra s'ils arrivent à nous créer autre chose. Moi, je suis pas forcément, j'enterre pas complètement cette rivalité. Je pense que, à mon avis, passer l'Elimination Chamber, ça peut, à coup de bonnes promos, à coup de segments choc, ça peut être assez sympa. Mais ça ne rivalisera jamais avec ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'ils partent avec un handicap qui est fort, quoi.
On arrive au main event qui était en trois actes là,
oui.
Ce main event. Première partie, les Street Profits qui débarquent. Il y a un title match ce jeudi pour le titre contre Seth Rollins et Murphy, si j'ai bien compris, qui a perdu d'ailleurs son prénom.
Oui, il a perdu son prénom depuis la semaine dernière. Ouais.
D'accord.
Depuis deux semaines déjà, je crois.
Ok. Je pense qu'il y a un quota. Il y a un quota tous les ans. Ils jouent à la roulette. On a un match complètement oubliable entre Angelo Dawkins et Murphy, avec les autres Zigoto dans leur coin. Seth qui intervient pour provoquer une DQ, donc victoire de Dawkins. S'en est suivi un match entre Seth Rollins et Montez Ford, qui lui a eu le mérite d'être quand même un peu plus solide. 15 minutes de bonne baston entre les deux. Montesfort qui est toujours sous coke là.
Ouais, c'est incroyable.
C'est assez incroyable, le mec va dans tous les sens. Je pense que le gars, il va dans deux ans, il fait un burn-out. Quoi. C'est pas possible.
Ah ouais, c'est pas possible.
Et visiblement, il est comme ça aussi à la maison, hein, d'après sa chère et tendre Bianca Belair.
Ah, c'est Bianca Belair, sa chère
et
tendre.
Ouais, sa chérie, c'est Bianca Belair. Et je sais plus, dans une interview, il est comme ça aussi à la maison. Oui, il est comme
ouais,
ça.
Oui, pareil. C'est épuisant.
Donc, j'imagine, on a quand même eu un bon match hein, entre Rollins et Ford,
oui,
15 minutes.
Très sympa, très sympa. Ouais. Ouais.
Avec donc, la victoire de Seth Rollins avec son finisher. Et puis, on a eu un autre match, Randy Orton, Kevin Owens. Gros match également, mais qui a duré un peu moins longtemps, ça a duré 8 minutes, mais dans lequel Seth Rollins était... impliqué, tout simplement, puisqu'il est arrivé aux abords du ring. Il est arrivé aux abords du ring. Je ne sais plus à quel moment il est arrivé aux abords du ring.
Bah, en fait, il est resté. Il est resté après son match. En fait, ils n'ont pas bougé les mecs.
Ouais. Tu imagines si tout le monde faisait ça à la fin, le bordel. Ouais.
ce serait des lumberjack match à chaque fois en main event.
Donc voilà, donc t'as tous les potes de Seth Rollins qui débarquent. Je crois qu'un peu plus tard, les Viking Raiders sont arrivés avec les Street Profits aussi.
Oui, bah, il fallait équilibrer. Ouais.
Ouais. Ouais, pendant le match entre Orton et Kevin Owens, ça fout le bordel. Et à un moment donné, c'est c'est Seth Rollins qui est-ce qu'il intervient, je sais plus.
Il distrait Kevin Owens.
Il distrait Kevin Owens, Orton qui place un DDT. Et surtout, on a un compte de 3, hyper rapide de la part de l'arbitre.
Oui.
Un de 3.
C'est vrai qu'il ne me disait rien, cet arbitre.
Ouais, cet arbitre qui ne disait rien, qui avait une drôle d'allure, qui n'avait pas une tête d'arbitre habituelle. Et ça s'est révélé derrière, effectivement, être plus qu'un simple arbitre, puisque au moment où Seth Rollins donne des chaises à Orton pour en finir avec Kevin Owens, se rebiffe, il prend également une chaise à son tour, je crois, et à plusieurs fois, en fait, l'arbitre intervient pour empêcher Kevin Owens de vraiment réussir son coup, puisqu'à un moment donné, il lui reprend sa chaise, je crois. Donc il y a des interventions de l'arbitre et Kevin Owens en a ras le cul, Randy Orton se barre, Kevin Owens balance l'arbitre à travers une table sous le regard pétrifié de Seth Rollins qui juste avant on a découvert que l'arbitre avait un t-shirt
et du Messi
donc c'est un
disciple.
Un disciple du Messie, Seth Rollins feinte de ne pas être au courant. Est-ce qu'on a là le début tout simplement d'un nouveau culte hein.
Ouais. Ah, moi j'ai trouvé ça très fun. Je sais pas si c'est parce que bon, je crois que le mec est un inconnu. C'est un jeune. C'était vraiment pour le fun de l'angle, mais cette notion que Seth Rollins commence à faire tourner des têtes au point d'enrôler des jeunes influençables, des jeunes naïfs dans son culte. Je trouve que c'est assez fun.
Dans ton culte, je trouve que c'est
assez sympa. J'ai beaucoup aimé moi cet angle de l'arbitre qui était du coup à la solde de Kevin Owens et qui révèle son t-shirt tel un fanatique qui portait son t-shirt sous son truc d'arbitre, ce blaireau. Je trouve que c'était vraiment très drôle. Le match au demeurant juste avant Orton Kevin Owens, bon, c'était pas extraordinaire, mais voilà, tu sentais que ils ont récité leur gamme pour arriver à l'angle final. Mais globalement, je trouvais ça plutôt intelligent parce que du coup, tu files une petite victoire gratos à Randy Orton qui fait pas de mal, et puis comme ça, on va dire que la feud d'Orton Owens se solde un petit peu d'elle-même. Orton gagne et puis Kevin Owens se refocalise tout de suite sur Seth Rollins puisque c'est à cause de lui qu'il a perdu ce match. Voilà un petit développement un petit peu plus fun que ce qui se passe depuis plus d'un mois maintenant avec des sempiternelles variations et des combinaisons de matchs qu'on avait entre Owens, Murphy, Ivar, les Viking Raiders, AOP, Samoa Joe, Street Profits, tout le monde se croisait. Bah voilà, là on a mixé tout ça avec un peu de Randy Orton et puis un petit peu d'angle original avec l'arbitre. Donc moi ça m'a bien fait marrer. Et puis ça ouvre la porte, comme tu dis, à peut-être d'autres angles de ce type-là. Qui sait, peut-être que la semaine prochaine, ce sera des mecs en coulisses qui feront partie du culte. Tu sais, le preneur de son, le caméraman, ouais. le mec du traiteur qui vont piéger Kevin Owens parce qu'en fait, on se rend compte que... Bah que Seth Rollins a le bras long et que sa secte se grandit de jour en jour. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je trouvais ça très, 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 très fun cette semaine. Ouais.
Ouais, ça peut donner lieu à des séquences visuelles, télé, toi, très, très fortes, hein, où effectivement, genre des mecs enlèvent tous leur t-shirt et en fait, en dessous, ils se révèlent être des disciples.
Ouais. Enfin,
un peu comme ce qu'on avait eu avec la Voyage Family, avec les gamins, etc. Même s'ils ne sont jamais allés aussi loin, là, c'est marrant, tu vois. Finalement, la Voyage Family, c'était très confidentiel. Il n'y avait pas vraiment de mecs qui se faisaient enrôler plus que ça.
Mais quitte à jouer la carte du gourou complètement frappé et aveuglé par son truc, jouer là à fond, quoi, parce que sinon, ça... Ça risque, au bout d'un moment, on risque de se lasser un petit peu de l'acte et ça va devenir un peu lambda, je pense.
Ouais.
Bah là, voilà, allez-y, vas-y, c'est la secte. Il faut jouer le jeu, quoi.
Ouais. Donc voilà, un nouvel angle qui clôture cet épisode de Monday Night Raw. C'est l'heure, si tu veux bien, du mot de la fin.
Yes.
Est-ce que tu peux nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît?
Alors... mon top, je reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé, mais c'est la promo de Drew McIntyre que j'ai trouvé top et un bon rebond après son échec de la semaine dernière. Voilà, Drew McIntyre qui nous fait encore tout un étalage de son charisme et du potentiel qu'il peut avoir au niveau de son personnage. J'ai trouvé que c'était un super segment. Et mon flop, je vais le donner aux filles et aux... Un peu paradoxal, mais mine de rien, c'est peut-être aussi pour ça que ça mérite un flop, c'est-à-dire que le segment de signature de l'Elimination Chamber était plutôt bien fait, et malgré ça, j'ai zéro hype pour le match, et je pense que ça en dit long sur l'écriture, sur le booking de pour l'instant de la rivalité féminine à Raw. C'est que malgré un segment pas trop dégueu, bah en fait, tout ce qu'il y a derrière, c'est on s'en fiche un peu, donc j'ai trouvé que c'était... On brassait beaucoup d'air cette semaine pour finalement rien du tout. Donc c'est mon flop. Et puis bah ma note, ça restera quand même plutôt une bonne note, parce que je vais mettre 3,75.
Oh.
3,75 parce que, tout simplement parce que j'ai trouvé que Raw avait bien relevé le niveau par rapport à la semaine dernière, était revenu dans la bonne direction, un petit peu à tous les étages de la carte, où enfin on avançait en termes de booking, hormis sur les filles, on avance un petit peu partout. Et les promos ont bien plu, les matchs ont bien plu, donc c'était globalement un bon épisode. Ouais.
Mon flop, je le donne à la promo de Paul Heyman.
Oui.
Ouais. Là, je crois qu'en termes de hype, on pouvait pas être moins hypé le truc. Mon top, je vais le donner à l'opener entre Orton et Kevin Owens. Qui, tout comme pour l'interview de Drew McIntyre, ça puait le vrai, ça sentait le vrai, toi. Vrai, c'était les vrais sentiments qui étaient en jeu. Et ma note, moi j'ai passé effectivement un bon moment devant ce Monday Night Raw. Comme tu dis, globalement, on a avancé un peu partout. On a même commencé à faire avancer sur des trucs d'après, toi, hein, avec l'histoire avec AJ Styles, avec il y a une espèce de. Je sais pas, on a. Poser quelques graines pour 2-3 trucs, ce qui est toujours cool à l'approche de WrestleMania.
Ouais, quand même. Hein.
De poser des graines sur toutes les choses qui peuvent se passer avant, pendant et après. Et c'est ça qu'on aime aussi hein, à l'approche de WrestleMania, c'est d'avoir de l'excitation, qu'on n'est pas exactement sûr de ce qui va se passer et ça a pas mal joué. Donc 3,5 pour moi pour cet épisode.
C'est bien.
Ah oui, un très bon épisode de Monday Night Raw. C'est le dernier épisode tout simplement avant le show en Arabie Saoudite.
Demain après-midi, enfin en tout cas.
Tu vas le regarder en direct?
Écoute, c'est demain à 18h, je verrai, peut-être pas en direct, mais je me brancherai peut-être à un moment dessus, ouais.
Ouais, moi c'est ce que je fais en général pour ces shows là à 18h, c'est un peu tôt, voilà.
Oui,
Et du monde à la maison.
De choper le début, mais
ouais.
Bon,
je... et puis là, je serai pas sur place, je serai en déplacement, mais je me cacherai dans les toilettes pour le regarder, toi.
Je louperai peut-être l'opener Ricochet contre Brock Lesnar, du coup.
Le pré-show.
Enfin, le pré-show, ouais, pardon. Ouais. Peut-être que j'aurai pas le temps de le voir, ça. Ouais.
Bon, en tout cas, si vous avez le temps de nous écouter, c'est facile. Catch Up, votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles de podcast, Apple, Google, Podcloud, Spotify, Deezer, YouTube. Vous les connaissez. N'hésitez pas à commenter sur la vidéo YouTube ce que vous avez pensé, à partager votre top, votre flop et votre note pour cet épisode de Monday Night Raw. N'hésitez pas à nous mettre des pouces, des étoiles, des cœurs, des petites reviews. Ça nous aide à être mieux référencés. Surtout, ça nous fait plaisir.
Ah bah oui, aussi.
Plaisir. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour... Oh, je pense que quelqu'un va se dévouer pour faire l'analyse de Super Showdown.
Écoute, on verra, on tirera ça à la courte paille.
Bon, qui va review le flop 2020 de Ketchup.
Attends, on sait jamais. Voilà.
Ouais, des fois, il y a des bonnes surprises. Des fois, il y a des bonnes surprises.
Pas les enterrer, c'est parfois quand on les attend le moins. Ouais,
ouais, exactement. Eh ben, c'est une fois de plus, je te remercie, hein, Giscal, pour ta présence.
C'est un plaisir, merci à toi.
Ton esprit critique. je vous remercie également tous nos auditeurs et nos auditrices et on vous donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, évidemment, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, pleine de catch. Salut.
Ciao.
Il a mouillé son biscuit.
Ah bah, ça me fait plaisir pour lui, tu vois.
Ah bah ouais, carrément.